Donc je voudrais là examiner brièvement, puisque le temps est court, ce qui me paraît être deux pseudo-concepts. Je voudrais montrer et démontrer en quoi il s'agit à mes yeux de pseudo-concepts, dont la fonction n'est pas tant de distinguer pour penser, mais dont la fonction essentielle est, dans le discours public, de disqualifier ceux qui sont visés. Ces deux pseudo-concepts qui sont souvent, et on comprend pourquoi et j'essaierai de le montrer également, articulés l'un à l'autre, c'est celui de guerre des mémoires, d'une part, et celui de communautarisme, d'autre part. En rappelant brièvement ceci, que le devoir de mémoire tant vanté aujourd'hui demeure, à mes yeux, d'une part très partiel, et d'autre part très partial, parce qu'il obéit en fait à deux logiques distinctes, suivant qu'il s'applique à la destruction des Juifs d'Europe, au génocide arménien, ou aux innombrables victimes indigènes, pour user de la terminologie officielle de la Troisième République. Et ce sont d'ailleurs parfois les mêmes qui, épris, disent-ils, de vérité historique et de justice dès lors qu'il s'agit d'Auschwitz, se muent en défenseurs tranquilles et parfois allègres du mensonge d'État et du révisionnisme d'État, relativement au passé de la France en Afrique du Nord, par exemple. Deux logiques, donc, deux types de discours, et aussi, c'est évidemment lié aux deux premiers points, deux régimes de justice. Je rappelle, de ce point de vue, le caractère ou la situation emblématique de Maurice Papon, jugé et condamné pour son rôle dans la déportation des Juifs de Bordeaux, comme chacun sait, remis en liberté gracieusement, mais qui ne sera sans doute jamais jugé en raison des lois d'amnistie régulièrement votées après la guerre d'Algérie pour ses responsabilités écrasantes, historiquement établies dans les massacres d'octobre 1961 lors des manifestations pacifiques organisées par le FLN. Massacres au cours desquels, je le rappelle, près de 300 Algériens furent tués par des policiers qui agissait sous les ordres de Maurice Papon, alors préfet de police de la capitale. De logique, donc, de types de discours, de régime de justice, et bien sûr aussi des pratiques distinctes. Et les uns et les autres ne déterminent pas seulement les rapports noués avec ces passés différents, ils affectent également ceux qui se mobilisent aujourd'hui pour exiger des pouvoirs publics la reconnaissance officielle des crimes commis au cours de la période coloniale. De quoi les accuse-t-on, en effet ? D'être à l'origine d'une prétendue guerre des mémoires, puisque telle est désormais l'expression commune et convenue, partout employée et répétée par les politiques, les journalistes, de nombreux universitaires, pour désigner la conjoncture nouvelle supposée être aujourd'hui la nôtre. Étrange usage hyperbolique de la langue, qui fait de tout différent, un tant soit peu important, un conflit réputé nuisible pour tous et ultimement attentatoire à la cohésion nationale. Tout se passe comme si, au fond, plus fort est le consensus sur un certain nombre de points significatifs de la vie économique, sociale et politique, moins les revendications portées par certaines minorités semblent acceptables, plus les termes employés pour les désigner empruntent au vocabulaire de l'affrontement meurtrier et de la guerre. J'ajoute que c'est sans doute au moment aussi où la commémoration du génocide est devenue consensuelle que toute autre exigence mémorielle a été perçue par beaucoup comme une sorte de désordre politique et d'inconvenance morale, témoignant, autre expression convenue qui traîne partout, témoignant donc d'une surenchère victimaire inacceptable parce que dangereuse. Et si l'on doit se féliciter désormais de l'attention accordée, enfin, par les pouvoirs publics, à la destruction des Juifs d'Europe et des efforts entrepris dans l'enseignement secondaire pour faire connaître cette histoire, force est de constater cependant que ces évolutions positives, que je tiens pour des acquis essentiels de ces dernières années, ont eu cependant un effet négatif, l'instauration d'un nouvel ordre commémoriel, indifférent, hostile parfois même, au passé de certaines minorités. En effet, cet ordre est souvent défendu de façon exclusive et sectaire par ceux qui, pour diverses raisons, minorent l'ampleur des crimes coloniaux ou craignent que leur reconnaissance ne favorise la banalisation du génocide. De là, le refus de satisfaire aux revendications de femmes et d'hommes qui luttent pour que leur histoire d'anciens colonisés ou celle de leurs parents ou grands-parents ait enfin droit de cité. Ce qui peut se dire aussi sous une autre forme, est enfin droit d'être cité dans les discours officiels de ceux qui représentent la France, comme on dit. Étrange contamination du langage, au terme de laquelle ceux qui devraient, par formation et profession, se méfier des expressions communes, guerre des mémoires, surenchère victimaire, pour mieux les analyser et atteindre les représentations dont elles sont en quelque sorte la cristallisation, les emploient à leur tour, souvent sans précaution ni aucune distance critique. Ainsi voit-on des chercheurs et des universitaires supposés savoir ce que parler et écrire veulent dire, recourir à de pareilles formules en les lestant par là même de vertus descriptives et analytiques, scientifiques en un mot, puisqu'elles sont réputées adéquates pour comprendre la situation présente. Plus grave encore, l'emploi savant, perçu comme tel du moins, de ces expressions valides ces dernières, et avec elles, évidemment aussi, les présupposés politiques implicites qu'elles véhiculent et qui sont ainsi renforcés. Et au terme de ce processus, plus ces expressions sont employées par un public divers venu d'horizons professionnels variés, plus elles se banalisent, plus elles envahissent tous les domaines de la vie sociale, intellectuelle et médiatique, moins elles sont discutées, plus elles passent pour rendre compte de façon correcte des luttes mémorielles en cours. Triomphe des formules, à mes yeux, indigence de la pensée. Étrange et martial vocabulaire enfin, utilisé pour nommer, et mal nommer en vérité, les mobilisations de ceux qui se vivent comme des descendants d'esclaves ou comme les filles et les fils d'anciens colonisés. Cette vieille rhétorique a déjà été utilisée, on le sait, pour discréditer ceux qui se sont longtemps et difficilement battus pour la reconnaissance des crimes commis par Vichy. Cette rhétorique d'hier est aujourd'hui employée pour jeter évidemment l'opprobre sur les nouvelles mobilisations mémorielles et commémorielles, car sous couvert de désignation et de qualification, ce qui prospère en fait, c'est à mes yeux la disqualification de revendications légitimes et bien sûr aussi la disqualification de ceux qui les portent. À quoi il faut ajouter, pour compléter ce tableau, l'accusation connexe, souvent articulée à la première et également disqualifiante, de mener un combat réputé communautariste. Et la conjonction de ces discours, souvent tenus pour savants et objectifs, lors même que prospère parfois le plus subjectif, pour ne pas dire le plus idéologique, permet d'agiter le spectre d'une guerre civile à venir et d'une guerre civile ethnique, prétend-on parfois, comme conséquence de la guerre des mémoires prétendument aujourd'hui engagée. Et cette perspective est évidemment de nature à délégitimer radicalement ceux qui s'engagent sur le terrain mémoriel en faisant d'eux des acteurs d'autant plus inquiétants qu'ils sont plus inconscients des dangers qu'ils font courir au pays sur lequel pèserait donc une menace mortelle. Communautarisme donc, accusation étrange, inepte en vérité qui ne peut être portée qu'en niant à mes yeux ceci d'essentiel. La plupart de ceux qui luttent pour mettre un terme à cette situation le font au nom de principes d'égalité, de vérité et de justice, nullement pour obtenir des privilèges dont leur communauté, entre guillemets, supposée d'appartenance, devrait seule bénéficier. Qu'exige-t-il, en effet, sinon l'application pleine et entière, universelle en un mot, de ces principes pour que cesse enfin quoi ? Le déni, le mensonge et l'injustice dont ils sont toujours victimes. Et les ressorts de leurs engagements, leur langage en témoigne aussi, sont ceux des droits, mais de droits trop longtemps bafoués, ce pourquoi ils s'organisent désormais afin d'obtenir par l'action collective cette reconnaissance officielle que les pouvoirs publics leur ont jusqu'à présent refusée alors qu'ils l'accordaient à d'autres dans les conditions que l'on sait. Quoi de plus démocratique au sens tocquevillien du terme, et c'est une citation de Tocqueville, que cette aspiration, écrivait Tocqueville, mâle et légitime pour l'égalité qui pousse les hommes à vouloir être tous forts, écrivait Tocqueville, est tous estimés. Cette aspiration à l'estime et à l'égale estime, faut-il préciser, est en effet aspiration à être reconnu comme un semblable par ses semblables et par la société. Et ici, cela passe entre autres par la reconnaissance du passé colonial de la France, et ce désir est d'autant plus vif qu'il se nourrit évidemment du constat que seule l'histoire impériale de la France demeure soumise à un pareil traitement. Plus exactement, cette dernière reconnaissance est perçue par ceux qui l'exigent comme l'acte public et solennel grâce auquel ils seront enfin considérés comme des égaux et non comme des femmes et des hommes dont il est fait moins de cas qu'il n'est juste. Ces termes étant en fait empruntés à la définition que donne Spinoza de la mésestime. L'intrication de ces deux modes distincts de reconnaissance, l'un collectif portant sur des événements passés, l'autre individuel est fondé sur des injustices présentes, notamment liées aux nombreuses discriminations qui frappent les nationaux d'origine maghrébine ou africaine, permet, je crois, de mieux comprendre l'importance affective, symbolique et politique des revendications mémorielles dans la conjoncture présente. Et à travers ces revendications qui cristallisent de nombreux enjeux historiques, sociaux et politiques, ces Français entendent aussi défendre leur dignité bafouée par la quête toute démocratique d'une estime sociale dont ils sont injustement privés. Mettre fin au mépris et au dédain pour leur histoire, pour les outrages endurés et finalement pour eux-mêmes, tel est donc l'un des ressorts importants des mobilisations commémorielles aujourd'hui et engagées. Et en dépit des affirmations réitérées de leurs contempteurs, ces mobilisations ne sont pas exclusives ou communautaires. Ceux qui les soutiennent n'exigent nullement en effet de faire l'objet d'un traitement particulier, grâce auquel ils joueraient de prérogatives qui leur seraient propres et qui les constitueraient ainsi en une sorte de corps nouveau à l'intérieur même de la société. Au contraire, ils ne cessent de revendiquer d'être reconnus comme membres à part entière de et par cette société et de bénéficier à ce titre des lois communes dont ils ne font que réclamer l'égale application conformément aux principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En quoi ces mobilisations sont bien, me semble-t-il, inclusives et démocratiques, portées qu'elles sont par une dynamique qui est celle de l'égalité et du refus des discriminations, quelles qu'elles soient. Et ce n'est pas l'ordre républicain, prétendument menacé par la progression du mal communautaire qui est ici en cause, mais à l'inverse, ce qui est en cause ici, ce sont les insuffisances notoires de cet ordre républicain, insuffisances notoires qui paraissent aux individus qui en sont victimes comme un déni désormais insupportable de leurs droits et de leur dignité. Communautaristes, ne cessons pourtant d'entendre. Qualification commode parce qu'imprécise, et c'est son imprécision même qui permet de subsumer sous un vocable unique et inquiétant, et pour cela négativement connoté, des manifestations très diverses, souvent sans rapport les unes avec les autres. Et c'est donc sur l'amalgame et la confusion qu'elle entretient aussi que prospère cette qualification. Et si penser, c'est distinguer, force est de constater que le terme communautariste, tel qu'il est communément employé, je le précise, ne permet ni l'un ni l'autre, car il se développe justement sur l'indistinction maintenue entre des phénomènes dont les différences sont inaperçues et évidemment, par conséquent, impensées. Enfin, la fonction essentielle de ce grand mot, pseudo-concept dans Creuse, comme écrivait Deleuze à propos d'autres grands mots et d'autres pseudo-concepts, pseudo-concept d'encreuse dont la prolifération est inversement proportionnelle à sa précision qui est nulle, n'est pas de différencier les réalités désignées pour mieux les isoler et les appréhender, mais de faire quoi ? De stigmatiser et de réduire au silence ceux qui sont donc accusés de mener communautariste. Quoi qu'il en soit, c'est ainsi que s'instaure une division symbolique et politique entre les défenseurs autoproclamés de l'universel et des valeurs de la République et des promoteurs anti-universalistes de particularismes présentés comme incompatibles avec les principes des institutions et la tradition française. Dès lors, quiconque soutient les revendications commémorielles ici dénoncées est aussitôt suspecté de vouloir alimenter des luttes fratricides et finalement ruineuses pour l'intégrité du pays. Et à la violence symbolique que constitue déjà en soi le déni, ou plus encore l'approbation bruyante du passé colonial et criminel de la France, s'en ajoute une autre, cette accusation de jeter les germes d'une guerre civile à venir. Plus précisément encore, pareil discours vise, me semble-t-il, à maintenir l'ordre présent de l'espace public en excluant de ce dernier, en refoulant dans ses marges du moins, les exigences commémorielles ici présentées. Au regard de ses ressorts rhétoriques, de son fonctionnement, de ses effets, l'accusation de communautarisme, bien que moins grave sur le plan personnel, social ou politique, que certaines accusations communes d'antisémitisme, telles qu'elles sont souvent et parfois de plus en plus, hélas, employées en France et aux États-Unis, je fais là référence à un très bel article de Judith Butler qui s'appelle « L'accusation d'antisémitisme, les Juifs, Israël et le risque de la critique publique », ces accusations d'antisémitisme, donc, telles qu'elles sont de plus en plus souvent employées en France et aux États-Unis, présentent cependant des analogies structurelles importantes avec l'accusation de communautariste. Dans les deux cas, nous sommes en effet en présence de termes abstraits, pour reprendre une terminologie tocquevillienne, aux significations vagues et fluctuantes, à partir desquelles prospèrent des incriminations qui procèdent fondamentalement par amalgame et réduction à l'identique de discours différents. Et dans le cas de l'accusation d'antisémitisme, par exemple, la critique de la politique du gouvernement israélien dans les territoires occupés, considérée comme une forme euphémisée mais bien réelle d'antisémitisme. Et dans les deux cas aussi, les conséquences sont proches, puisque les personnes accusées de la sorte sont brutalement discréditées. De même, leurs propos, dont il s'agit de ruiner la légitimité pour mieux les bannir de la sphère publique en évacuant les problèmes qu'il s'agissait de poser et de soumettre à la délibération collective. Dans les deux cas, enfin, il n'y a plus à débattre au motif qu'il n'est pas de discussion possible, justement, avec des antisémites ou des communautaristes. Ils doivent être combattus puisqu'ils ne sont pas des adversaires légitimes, mais puisqu'ils sont présentés comme des ennemis de l'ordre démocratique et républicain. Hyperinflation langagière, prédiction catastrophique, la prétendue guerre civile à venir, prédiction catastrophique qui a ceci de particulier que son excès même passe le plus souvent non pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour un délire interprétatif sans fondement, sans autre fondement du moins que les arguments d'autorité et les coups de force discursifs sur lesquels il prospère, et enfin, rhétorique réactionnaire classique qui a recours, comme l'a bien analysé Albert Hirschman, à la thèse de la mise en péril, la prétendue guerre civile et ethnique à venir. Tels sont donc les principaux éléments qui soutiennent implicitement ou explicitement les discours à géométrie variable de la guerre des mémoires et du prétendu communautarisme. Je voudrais finir par une citation. Je vous ferai la citation et je vous dirai ensuite de qui elle est. Mémoire scolaire et mémoire nationale sont inséparables. Et le retard français en la matière s'explique par le long processus de refoulement et d'occultation des années noires. L'expression à elle seule est révélatrice. À quelle histoire particulière ces lignes font-elles référence et qui en est l'auteur? Un farouche militant de la cause des anciens colonisés et de leurs descendants que ses engagements passés et présents discréditeraient sur le plan académique, comme on dit? Non, celui qui a écrit ces lignes C'est Georges Bensoussan dans un article intitulé « L'enseignement de la Shoah dans l'éducation nationale française entre 1945 et 1990 ». Et donc à propos du génocide des Juifs et de la collaboration. Et aujourd'hui que la situation relativement à ces deux événements a évolué de façon positive, non pas naturellement, comme il est dit trop souvent et imbécilement, si je puis dire, mais en raison du combat acharné de ceux qui ont lutté contre l'occultation d'État, contre le mensonge d'État, contre la mythologie résistantialiste bâtie après la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant que la situation donc relativement à ces deux événements a évolué de façon positive, difficile de nier que le constat de Bensoussan ou le constat que faisait Bensoussan pour l'histoire de la participation des autorités de Vichy au génocide, difficile donc de nier que ce constat s'applique à un autre objet, et cet autre objet, c'est évidemment le passé colonial et criminel de la France. Je vous remercie.